Mais c'était pas par amour. C'était juste pour nous empêcher de fuir. Léo me parlait plus. Benjamin m'évitait. Il m'avait dit que les discussions en italien c'était fini, que Léo se débrouillait suffisamment pour ne plus avoir besoin de son aide, et j'ai pensé qu'elle avait encore suffisamment besoin de lui pour qu'ils partent ensemble. Bientôt ils se retrouveraient en tête à tête, les yeux dans les yeux, pendant que je resterais dans ce trou perdu à laisser l'été filer, en faisant mes cartons pour une université où j'avais plus envie d'aller. À quoi bon partir si les autres sont partis bien avant moi? À quoi bon faire quelque chose si on n'est pas la première à le faire? J'ai commencé à tourner en rond. Il n'allait pas partir tout de suite. Il restait une année de lycée avant qu'elle ait 18 ans. J'avais le temps de trouver un moyen d'empêcher ce voyage. Mais la patience, ça n'a jamais été mon truc. Je me suis mise à rôder autour de la maison de Benjamin en espérant l'apercevoir le soir, ne serait-ce que son ombre derrière la fenêtre. À chaque fois, j'attendais, accroupie au fond de son jardin, avec l'humidité qui remontait du sol, et j'espérais ne jamais voir sa silhouette à elle. J'espérais encore qu'ils n'aient rien fait ensemble. Je guettais jusqu'à ce que je sois frigorifiée, et je repartais de la même manière que j'étais venue, par un passage dans la haie que tous les gamins connaissaient. Je rentrais à la maison, et c'est à peine si mes parents s'apercevaient que j'étais là. Si je rentrais vraiment tard, la bouteille de chardonnay était vide sur la table basse, et ils somnolaient devant la télé. On aurait dit deux petits vieux. J'allais de plus en plus souvent espionner Benjamin. Je connaissais tout son emploi du temps. Je savais que le jeudi soir, il rentrait tard parce qu'il animait un truc nul, un club de théâtre avec des gens qui se croyaient doués ou espéraient qu'on les reconnaîtrait un jour à leur juste valeur, qu'ils auraient leur quart d'heure de gloire. Est-ce qu'ils ont oublié où ils vivaient? La gloire à Mercy, ça va jamais très loin. Un jeudi, il est rentré avec elle et mon cœur a chuté dans ma poitrine. C'était un cauchemar. Elle et pas moi. Elle au lieu de moi. Elle n'est pas restée longtemps, et ils ne se sont pas touchés. Il ne l'a pas embrassée, il lui a juste tendu quelques livres qu'elle a pris comme si c'était une transaction habituelle entre eux. C'est ce geste-là qui a tout déclenché. Je me suis dit qu'il n'y avait qu'un livre pour tout arrêter. Le jeudi suivant, je me suis glissée jusqu'à la porte arrière de sa maison, une vieille porte en bois dont la clé était cachée sous un pot de fleurs. La porte a grincé. J'ai laissé mes chaussures à l'extérieur sur le paillasson. Je me suis glissée jusqu'à son salon à peine éclairé par les phares des voitures qui passaient. La bibliothèque était devant moi, remplie de ces foutus bouquins qu'il nous avait prêtés et que j'avais eu la bêtise de lire en pensant que je trouverais un peu de lui à l'intérieur. J'ai cherché le livre idéal, une édition originale de Faulkner qu'il nous avait montré parce que c'était un des trucs auxquels il tenait le plus. C'était jamais qu'un tas de papier, en fait. J'ai glissé dedans les photos et une partie de la lettre de Léo. J'avais déchiré l'entête. Mon prénom n'apparaissait nulle part. Mais j'étais assez grande pour savoir que, parfois, quelques mots suffisent à déclencher des tempêtes.
Hiver. Vous savez ce qu'on dit des Italiens? Ce sont des Français qui sourient. Je n'ai jamais rencontré de Français, en revanche. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a souri, au moins pendant quelques années. J'étais allé à Daytona avec Wallace parce qu'on adorait les voitures à l'époque. Le vrombissement des moteurs, les pots d'échappement qui pétaradent, la gomme des pneus qui fond sur le bitume, ce spectacle me remuait toujours les tripes. J'étais parti nous chercher de la bière fraîche et de quoi manger. Je l'ai vue, au milieu d'une allée, toute seule, dans une robe juste assez décolletée pour attirer l'œil. Et l'œil, elle l'attirait, croyez-moi. Elle avait de longs cheveux noirs qui descendaient jusqu'à la taille, des cheveux dans lesquels vous aviez envie de glisser vos doigts tellement ils semblaient épais et nerveux. Forcément, je n'étais pas le seul à l'avoir remarqué. On voyait bien qu'elle ne venait pas d'ici. Une fille dans son genre, en tout cas, ça ne se laissait pas passer. Alors j'ai tenté ma chance. Je n'étais pas timide et j'avais suffisamment de succès avec les femmes pour oser leur parler. J'ai dû lui sortir mon baratin habituel, je ne me souviens plus trop. Et elle m'a souri. Elle n'avait pas les dents bien alignées. Ses canines étaient un peu tournées, saillantes. Elle avait aussi des petits défauts, le nez un peu trop long et des cicatrices de varicelle sur le front et les joues. Mais ça lui donnait du chien de ne pas être parfaite. Elle était italienne. Pas une italienne de Brooklyn ou du New Jersey. Une vraie italienne. De Sicile, précisément. D'un village